Si vous avez vos Bibles, vous cherchez dans Hébreux chapitre 11 et nous allons regarder les versets 17 à 19. J'allais écrire, mais j'ai rien. Ben, c'est pas grave. Ok. Donc, Hébreux chapitre 11, 17 à 19. Hebrews chapter 11, verses 17 through 19. L'un des films les plus remarquables des années 80 était le film qui s'appelle Le choix de Sophie avec Meryl Streep et aussi Kevin Kline. Et vous vous souvenez, si vous avez vu le film, c'est un film où une femme est tourmentée par son passé en Allemagne nazie. Et l'histoire raconte son expérience à Auschwitz, où là, avec ses deux enfants, elle a dû faire un choix, le choix de Sophie, c'est-à-dire de choisir lequel de ses enfants allait survivre le camp et lequel serait tué. Et comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas un film drôle, ni un film qui termine avec un happy end, comme moi j'aime. Dans l'histoire de la Genèse, tout au début du récit du dessein de Dieu pour Israël, il y a un autre moment, un choix qu'un parent doit faire. Et ce choix concerne celui d'un père qui a cru en Dieu, qui a mis toute sa foi en Dieu et qui reçoit un appel qui est l'appel de sacrifier son enfant unique, son enfant Isaac, le fils de la promesse, sur le mont Moria, qui est maintenant peut-être c'est la ville de Jérusalem. Okay. Et là, nous avons ce choix qui n'est pas entre deux enfants, mais est-ce que je sacrifie mon enfant donc unique ou est-ce que je vais dans ma propre direction et désobéir à Dieu? Nous sommes aux Hébreux chapitre 11, les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Bon. Le passage donc auquel il fait référence, c'est dans Genèse chapitre 22. Et après avoir reçu cet enfant à un âge très avancé, donc vous vous souvenez que Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah avait 90 ans, après quelques années où sans doute Abraham a pu créer des liens très forts avec ce fils, pouvoir l'accepter comme fils unique de la promesse, l'enfant de la bénédiction, Dieu lui a donné l'ordre de sacrifier son enfant sans lui donner une explication, sans lui dire pourquoi cela devait avoir lieu. Et dans le récit de Genèse chapitre 2, sans hésitation, en tout cas on ne le montre pas, Abraham a obéi à Dieu. Mais au moment où il doit tuer Isaac, le moment qu'il lève donc le couteau pour égorger son fils, Dieu l'a arrêté et lui a donné un bélier comme sacrifice à la place d'Isaac. Après, Dieu a répété les promesses à Abraham qu'il aurait une descendance, qu'il y aurait une nation, qu'il y aurait un territoire et que finalement, quelqu'un viendrait qui bénirait toutes les nations de la terre. Et tout cela vient grâce à cette obéissance de Abraham. Il faut savoir qu'au chapitre 22 de Genèse, nous sommes au sommet de la foi d'Abraham. On a vu ses faiblesses, on a vu ses moments brillants de foi, mais maintenant, nous avons un homme qui décide de mettre toute sa confiance en Dieu. Et pourquoi ce passage est-il relaté dans nos Bibles? Ce n'est pas seulement pour répéter les promesses à Abraham, ça on les trouve au chapitre 12, au chapitre 15, au chapitre 17, ce n'est pas simplement pour bien comprendre ces promesses, c'est plutôt un passage qui souligne l'obéissance d'Abraham, manifestée par le fait qu'il était prêt à tout sacrifier pour Dieu. Et le but principal de ce récit en Genèse souligné dans les épreuves, c'est que dans l'Ancien Testament, cet événement éprouve la foi d'Abraham. Est-ce qu'il croyait vraiment à Dieu? Est-ce que sa foi était authentique? Est-ce qu'il était prêt à vraiment mettre sa confiance en Dieu plutôt que autre chose? Vous vous souvenez quand Abraham a reçu son appel à Ur et puis à Haran, qu'il a dû sacrifier son pays, ses conforts, sa famille proche et la maison de son père pour donc écouter la voix de Dieu. Et plus tard, à un endroit qui s'appelle Guérar, Abraham sacrifie, entre guillemets, la relation avec Ismaël. Parce qu'il relâche Agar, il donne Agar à Sarah, il dit, fais ce que tu veux. Et Sarah, donc, va chasser Agar et ce fils que Abraham aimait, Ismaël, de la maison. Et nous voyons plus tard, ici, donc, dans notre passage, que Dieu donne l'ordre à Abraham de donner son fils Isaac, le fils de Sarah, comme sacrifice. Donc, notons bien, pendant toute la vie d'Abraham, il est en train de se séparer de certaines choses. Okay? Première chose, il se sépare de son passé. Il doit quitter Ur, il doit quitter Haran et il doit jamais revenir en arrière. Et son passé, il donne à Dieu. Il a ses projets présents, c'est-à-dire Ismaël, et tous les projets qu'il a pour ce fils, qui n'est pas le fils de la promesse. Et là, il doit les sacrifier. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sacrifier son avenir, son espérance. C'est-à-dire, c'est le fils qui devait donner l'héritage, qui doit donner une descendance à Abraham, et il doit sacrifier son avenir. Donc, notons bien, il sacrifie son passé. Il sacrifie ses projets pour maintenant et puis aussi l'avenir. Et Dieu demande à Abraham de donner tout cela. Abraham, donc, a fait cela. Il était éprouvé et il a fait ce que Dieu a demandé. Et à cause de cela, nous voyons sa foi resplendissante. Cette foi brillante qu'on aimerait tous avoir. C'est-à-dire, sans question de dire oui à Dieu et aller en avant. Ce que Dieu avait promis pour arriver jusqu'au bout à travers les générations impliquait pour Dieu une consécration totale d'Abraham. L'épreuve démontrait que ce patriarche était prêt à tout faire pour suivre le dessein divin de Dieu, même s'il ne comprenait pas. Il n'a aucune idée de comment cela va se passer. Est-ce qu'il pouvait garder sa confiance en Dieu, le Dieu de la promesse, de l'alliance, quand tout semblait contredire cette promesse? Et quand vous lisez le dessein de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire quand Dieu commence à mettre en route le salut pour les hommes, cette histoire commence vraiment concrètement dans la personne d'Abraham. Et nous remarquons dans la personne d'Abraham qu'il est le premier volume, disons le premier livre de toute la série, n'est-ce pas? Et il commence avec cette foi qui est resplendissante, cette obéissance parfaite à la volonté de Yahvé, qui est la volonté de Dieu. Il est prêt à faire cela. Et nous voyons qu'à la fin, donc pour vous c'est cette direction, à la fin, il y a tous les volumes, mais dans le dernier volume, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons le Fils unique de Dieu qui est obéissant en quoi? En toutes choses. Okay? Qui met totalement sa confiance en Dieu. Donc, le premier volume, Abraham développe une foi extraordinaire et éblouissante. Et puis, nous arrivons à Jésus qui accomplit le dessein et c'est celui qui est prêt à dire à son Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Que mon rôle, c'est de faire la volonté de mon Père. Et peut-être cela sert pour nous d'exemple. Abraham, Jésus, les deux servent d'exemple, bien sûr avec tous nos problèmes, tous nos péchés, toutes nos désobéissances, mais nous sommes appelés donc à vivre avec cette foi. Dans Hébreux chapitre 11, l'écrivain parle d'Abraham et il dit qu'Abraham était mis à l'épreuve. Il était mis à l'épreuve. Et juste pour vous dire, le mot là, parfois il dit tenter, mais c'est pas le mot tenter parce que nous nous souvenons, n'est-ce pas, que Jacques chapitre 1 le verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise hein, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu ne désire pas séduire Abraham pour qu'il fasse le mal, qu'il dise non. Dieu est en train de faire ressortir cette qualité et profondeur de foi. Et sans cet événement, nous n'aurions jamais su combien de fois il avait. C'est le même mot éprouvé que Dieu a utilisé quand il a parlé d'Israël dans le désert. Par exemple, il a dit, vous allez chercher la manne 6 jours par semaine et le septième, il n'y aura pas. Et cela, c'est pour vous éprouver si vous allez écouter ma voix et m'obéir. Parce qu'il y a des gens qui ramassaient trop, d'autres qui sont venus le samedi donc pour ramasser, et donc ils écoutaient et ils n'obéissaient pas. Ou c'est pour cela que il y avait cette dépendance sur Dieu pour l'eau. C'était pour les mettre à l'épreuve. Est-ce qu'ils allaient mettre leur confiance en Dieu qui allait leur donner tout ce dont ils avaient besoin? En réalité, ces épreuves vont faire ressortir tout ce qui est dans le cœur humain. En Deutéronome chapitre 8, le verset 2, nous lisons: Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. Donc toute cette histoire de 40 ans dans le désert, c'était fait pour ressortir la foi. C'était pour mesurer cette foi qui était en eux. Et c'est la même chose pour Abraham. Et ces épreuves divines vont faire ressortir les valeurs et les vraies motivations du cœur d'Abraham. Selon Genèse chapitre 22, Dieu a éprouvé la foi d'Abraham pour savoir s'il avait vraiment placé toute sa volonté en Dieu. Est-ce qu'il peut agir au-dessus de toute logique? Ce n'est pas logique de tuer le fils de la promesse. Au-dessus de son amour pour Isaac, nous devons imaginer qu'il aimait profondément ce fils. Au-dessus de ses rêves pour l'avenir que Dieu lui avait donné, est-ce qu'il était prêt à sacrifier cela? Et quand Yahvé fait son appel, l'auteur de Genèse a décrit Isaac en utilisant un outil qu'on appelle de crescendo. Okay? Il dit que je veux que tu offres ton fils. Et puis après, je veux que tu offres ton unique fils unique. Et puis celui qui tu aimes. Et puis Isaac. Et c'est intéressant parce que Isaac veut dire rire. C'est-à-dire celui qui apporte la joie dans la famille. Et Dieu augmente donc avec ce crescendo ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui qui apporte la joie. Il augmente cela. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit oui. Abraham dit oui. Bah, heureusement, nous connaissons toute l'histoire, parce que nous savons que pendant toute sa vie, il n'a pas toujours dit oui. Okay? Parfois, il a dit oui, mais. Mais ici, dans sa croissance, il est prêt à obéir. Et de cette manière, l'écrivain souligne l'importance de ce grand sacrifice à qui Abraham est appelé. Bon, juste pour vous dire, donc je vous raconte l'histoire, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 22, je vous encourage à le faire, mais comme j'aime bien raconter les histoires. Abraham quitte chez lui avec Isaac et avec quelques serviteurs. Il semble qu'ils ont des ânes ou quelque chose qui porte aussi des choses, comme s'ils allaient faire du camping. Abraham porte le fardeau du commandement de Dieu pendant 3 jours. Et on peut imaginer que cela devient de plus en plus lourd pour lui quand il s'approche de Moria. C'est une montagne, peut-être c'est la montagne sur laquelle Jérusalem est construite. Et Isaac et les serviteurs voient le mont Moria s'approcher de loin. C'est dans chapitre 21, le verset 4 de Genèse. Mais grâce à la promesse de Dieu, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Abraham a cru. Et comment? Bon, nous ne le savons pas exactement, mais Abraham a cru que Dieu allait ramener tous les deux. Parce que quand ils arrivent en bas du mont Moria, il va dire à ses serviteurs, nous allons continuer seuls, mais nous reviendrons. Nous reviendrons. Et c'est pour cela, je crois, que l'écrivain aux Hébreux sait qu'il est prêt à sacrifier son enfant, mais il sait aussi que Dieu pourrait le ressusciter. Et donc, sa foi qui est là. Et de nouveau, les paroles d'Isaac ont dû faire très mal quand il a demandé à son père, « Mon père, où est l'agneau pour le sacrifice? » C'est ça qu'il pose. Et la réponse d'Abraham déclare sa foi, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et le texte continue en disant, « Et ils marchèrent tous les deux ensemble. » Il y a Abraham qui porte le couteau et le feu. Il y a le fils Isaac qui porte le bois pour faire le feu sur son dos. Et les deux y vont sur le sommet de Moria. Le feu, le bois et le sacrifice. Et les pas de ce vieillard doivent quand même devenir de plus en plus lourds. Mais il ne s'arrête pas. Il fera ce que Dieu demande. Il donnera tout pour Yahvé, non comme un militant extrémiste, mais comme quelqu'un qui sait qu'une promesse prononcée par Yahvé est une promesse qui sera accomplie selon la volonté de Yahvé. Et l'auteur de Genèse nous donne les détails pour quand les deux sont arrivés au sommet. Il dit ceci, Abraham a fait un autel, donc avec les pierres, il a posé le bois, il a ligoté son fils, il a mis sur l'autel par-dessus le bois, il a étendu sa main, il a pris le couteau pour égorger son fils. Mais Dieu l'a arrêté. J'ai reconnu maintenant, dit Dieu, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et voici comment l'histoire finit, sauf que Dieu offre un agneau à Abraham qu'il sacrifie sur l'autel. Cette histoire est évoquée par celui qui a écrit la lettre aux Hébreux pour encourager notre fidélité. Et la fidélité des chrétiens du premier siècle. Ils passaient par des persécutions, ils passaient par des épreuves. Les promesses de Dieu, la vie éternelle, le renouvellement en Christ, le royaume de Dieu, semblaient être très loin parfois à travers les persécutions injustes. Mais il fallait qu'ils restent fidèles. Et Abraham est devenu pour eux un symbole de la fidélité. Comme il fallait qu'Isaac vive comme fils de la promesse pour donner une descendance à Abraham, il fallait aussi qu'il meure. Okay? Et donc Abraham se trouvait devant un choix terrible. Soit je désobéis à Dieu et subir les conséquences, soit je sacrifie mon fils qui est celui de la promesse. Et Abraham est connu comme l'ami de Dieu, celui que Dieu aimait. Il avait confiance en Dieu. Il avait foi en sa bonté et dans sa puissance, même pour ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est l'explication qu'il donne l'auteur aux Hébreux. Une explication qui n'est pas retrouvée ailleurs dans l'Ancien Testament, mais qui est évident car Abraham a offert son fils par la foi, et par la foi, Dieu lui a rendu son fils. Aux Hébreux, nous apprenons qu'ici, il y a un symbole. Okay, il dit, et ceci est un symbole, dit l'écrivain aux Hébreux. Et peut-être c'est un symbole de la foi véritable, qui n'est pas simplement une croyance, mais c'est aussi le sacrifice de soi et tout ce qui est important pour soi. Et donc, Dieu demande que lui y prenne toute la place dans notre vie et les autres choses vont retrouver leur place. Ou peut-être c'est que Dieu ne nous rend nos vies que lorsque nous lui avons sacrifié nos vies. Peut-être c'est ça l'idée. Nous sacrifions nos vies à Dieu, comme dit Romains chapitre 1, 12, les versets 1 et 2. Nous lui sacrifions à Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend nos vies dans toutes les situations. Ou encore que la foi véritable est une foi qui agit, qui répond ou qui obéit. En tout cas, ce que nous voyons en Abraham et qu'on retrouve, donc Abraham retrouve son fils après, mais il était prêt à tout sacrifier. Mais remarquons aussi que ce que Dieu demande à Abraham annonce le sacrifice du Fils de Dieu. Et ceci en vue de l'accomplissement de la promesse qui était faite à Abraham, qu'à travers sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Mais il reste pourtant une différence primordiale entre les deux sacrifices, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac et le sacrifice de Jésus. Dieu a dû réellement sacrifier son Fils unique, comme celui qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est le Fils mis sur l'autel, et il est celui aussi qui est l'agneau ou le bélier qui est offert après. Il est les deux sacrifices. Et autant qu'il fallait qu'Isaac vive, autant il fallait que Jésus meure. Et c'était la seule manière pour que Dieu nous donne la vie. Dieu pourvoit aujourd'hui notre salut à travers le Fils obéissant. C'est intéressant, n'est-ce pas, de comparer le Christ et Isaac. Nous voyons que Isaac est considéré le fils unique, même s'il y avait Ismaël et tout, mais il est considéré comme le fils unique. Et Jésus est le fils unique qui donne sa vie. Le Père exprime sa volonté, okay, que le Christ doit être sacrifié. Dieu exprime sa volonté. Isaac fait confiance en son Père quand on arrive. Où est le sacrifice? Bon, Dieu pourvoira, pourvoira. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suit Abraham sur la montagne. Et Jésus, dans le jardin, que fait-il? Il fait confiance en Dieu. Parce que il n'a qu'une promesse que son Père va le ressusciter. Mais il le croit. Isaac porte le bois de sacrifice. Jésus porte sa propre croix. Isaac est lié et mis sur l'autel. Jésus est cloué à une croix et suspendu entre ciel et terre. L'agneau meurt sur l'autel à la place d'Isaac. L'agneau de Dieu meurt sur la croix pour les péchés du monde. Et en tout, nous croyons que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Voilà, c'est notre histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qui nous appelle à vivre avec foi. C'est une histoire qui nous appelle à examiner la vie et dire, oui, je sais que j'ai pas toujours vécu comme cela, mais Dieu m'appelle à cette foi. Et nous ne pouvons pas vivre pour le Christ sans avoir des épreuves. Ce n'est pas possible de vivre pour lui sans épreuve. Vivre la vie en Christ n'est pas comme la Coupe du Monde, par exemple, où il y a un pays qui se qualifie juste parce qu'ils sont les hôtes, okay? Les autres. Okay? Non, il faut passer par les qualifications, il faut passer par les épreuves, il faut passer par les barrages. Et à travers chaque épreuve, on fait ressortir les valeurs de l'équipe pour arriver en finale. Et de la même façon, les épreuves peuvent nous façonner quand nous restons fidèles à Dieu. De la même façon, nous ne pouvons pas être chrétiens, des vrais enfants de foi d'Abraham, si nous nous protégeons de tout risque, parce que nous n'osons pas vivre notre foi. Nous devons, comme Abraham, croire aux promesses de Dieu, mais aussi placer notre avenir entre les mains de Yahvé, le Père de Jésus. Vous aurez des épreuves, vous aurez des risques, il faut lui donner votre avenir sans jamais oublier ses promesses. Promesses de la gloire et de la communion avec tous qui avaient la foi avant nous. Cela veut dire que si vous vivez par la foi, vous allez rencontrer Abraham. Vous allez rencontrer Isaac. Vous allez rencontrer Jésus et vous le verrez face à face. Vous serez transformé pour être comme lui pour l'éternité. Et cela vient parce que Dieu a un plan. Et c'est un plan de nous sauver à travers son Fils, à travers sa résurrection, et de nous appeler aussi à vivre fidèlement. Et pour y arriver, nous devons tenir bon dans les épreuves, parce qu'elles vont venir. Elles vont venir.